bonjour à tous pour cette 15e émission de l'art qui parle de notre temps. Nous clôturons cette saison marquée par la Covid avec une émission encore confinée dans des textes. Dès septembre, nous retrouverons, je l'espère, le chemin des rencontres avec les lieux et les artistes et les visites d'expositions. Je ne suis pas sûr que nos hommes politiques aient bien mesuré en quoi la culture est essentielle. Et je crains qu'une vision un peu parisienne, embrumée par les millions de visiteurs, de touristes présents dans les salles du Louvre, obscurcit la vie régionale des musées, des lieux d'art, qui accueillent un nombre raisonnable de visiteurs et poursuivent leur activité éducative auprès des jeunes. Au-delà de ce constat, peut-être faudrait-il essayer de comprendre pourquoi les hommes politiques se montrent indifférents à la culture, tout en la revendiquant comme un essentiel. Dans son éditorial du numéro d'Art Presse, le numéro 488, de mai 2021, Catherine Millet constate que nous avons perdu les présidents qui parlaient avec les artistes et de leurs œuvres, qu'ils soient peintres, architectes, écrivains, acteurs ou musiciens. Je la cite. « Voilà maintenant quelques longs quinquennats au cours desquels ces liens entre le monde de la culture et le monde politique se sont délités. L'année qui vient de s'écouler a même révélé la rupture radicale entre eux. Depuis des mois, les responsables de salles de spectacle et de lieux d'exposition s'évertuent à rappeler qu'on n'organise pas de rêve entre leurs murs, tandis que le gouvernement, sourd à leurs demandes, les maintient fermés et ferme ceux qui étaient encore ouverts, ne méprisant pas seulement le bénéfice que les amateurs en tireraient quand beaucoup d'autres privations sont imposées, mais aussi le travail parfois de plusieurs années que des films, des spectacles, des expositions ont réclamé. On cherche en vain l'explication à cet entêtement absurde. Sans doute n'est-elle pas ailleurs que dans ce gouffre désormais creusé entre le monde de la culture et le monde politique. Le divorce est consommé car pour la plupart des hommes politiques, les artistes sont des inconnus et seules les œuvres qui retiennent l'attention des médias retiennent leur considération. Signe d'un monde qui abrase le ferment de ce qui le légitime. Le dictat de l'économie, l'urgence du présent, éloigne progressivement les formes longues de constitution de la réflexion qui devraient conduire à nous comprendre, au profit des formes immédiates, des ressentis, des peurs, des exaltations qui nous conduisent à concentrer notre vie sur notre nombril. Au programme de cette 15e émission, nous poursuivrons la présentation de la commande publique de la ligne A du tramway d'Orléans, mise en service le 27 novembre 2000. Nous descendons la ligne du nord vers le sud pour s'arrêter sur l'œuvre « Fabrique » d'Elisabeth Ballet, après avoir consacré cette rubrique « Un peu de commande publique » à Peart Kirkeby lors de la précédente émission. Puis, dans « Un peu de commentaires de livres », nous porterons notre attention sur un point précis du texte d'Éric Michaud, « Fabrique de l'homme nouveau », de Léger à Modrian. Mais avant, je vous ferai part de la dernière publication de Nathalie Hénich, « Ce que le militantisme fait à la recherche », publié dans la collection « Trac » numéro 29 des éditions Gallimard, Paris 2021, dans un peu de notes de lecture. La programmation musicale découle d'une playlist intitulée « Si l'on passe par là », qu'une personne m'a invité à partager. Nous commencerons par les morceaux de l'artiste israélien Avi Beloli, « Free Carter of Space » and « The Dream Searcher ». Puis, nous poursuivrons par la chanson 16-16 de la chanteuse française Clou avec sa voix si claire. Puis, nous écouterons le rock détonnant de Jane Bird, artiste anglaise, qui interprétera I Get No Joy. Thank you. un peu de notes de lecture. J'ai eu envie de vous parler de ce pamphlet critique de 42 pages, car il analyse une tendance actuelle qui s'immisce dans les débats artistiques, dont les effets délétères conduisent aux formes d'autocensure dont nous avons largement parlé au sujet des œuvres d'Eric Kessel et Philippe Guston dans nos émissions précédentes. Cette dite « cancel culture » accuse et empêche la réalisation du débat au nom de revendications militantes, qui ne supportent aucune contradiction et réussissent à faire taire les avis contraires en culpabilisant ceux qui les professent. Il porte principalement sur la recherche universitaire, qui subit le même phénomène et que l'autrice analyse finement avec autorité. Il s'agit donc du texte de Nathalie Hennich intitulé « Ce que le militantisme fait à la recherche » édité chez Gallimard en 2021. Elle critique fermement les universitaires qui se revendiquent de leur militantisme dans le cadre de leur recherche, créant une confusion de genre et de lieu qui obère la qualité de leur travail de recherche au profit de leur mot d'ordre militant. Elle écrit: déficit de curiosité intellectuelle et de rigueur scientifique, radicalisme borné, lâcheté individuelle protégée par la meute, jouissance perverse du pouvoir exercé par la culpabilisation, par la menace ou la force, voilà quelques-uns des effets du militantisme académique. Le monde universitaire que nous dessinent les nouveaux chantres de l'identitarisme et du communitarisme est un monde intellectuellement exsangue, omnibulé par le genre, la race ou la sexualité, appauvri de toute la recherche de nos ressources conceptuelles. Et le monde social qu'il tente de construire est un monde relationnellement invivable, habité par la méchanceté, la hargne et le désir de vengeance. Nathalie Hennich commence en précisant que ce n'est pas la première fois que l'engagement militant vient geler le développement de la recherche. En citant Jacques Julliard, elle identifie la glaciation soviéto-marxiste de l'après-guerre, la glaciation maoïste des années 1970 et celle actuelle que Jacques Julliard qualifie d'islamo-gauchiste. Elle précise qu'à chaque fois que ce militantisme dans les champs des sciences sociales tend à diriger toutes les réflexions sur ce qui serait à la base de tout, le principe de domination, sorte de préalable à tout début de réflexion comme un postulat de départ empêchant toute forme de questionnement essentiel pour développer une recherche. Elle écrit: tendant à défaire toute objectivité du savoir, ce courant s'est associé avec un communitarisme de campus en forme de politique des identités, focalisé sur les discriminations liées à l'appartenance à une communauté dominée, d'où la mise en place outre-Atlantique puis en France des studies, ces nombreux découpages universitaires centrés non sur les disciplines des sciences humaines et sociales, histoire, sociologie, anthropologie, etc., mais sur les objets d'études, de préférence définis par leur association à des collectifs minoritaires ou discriminés, les femmes, études de genre, les gens de couleur, études raciales, les homosexuels, les obèses et les handicapés, etc. Sa critique ne porte pas sur une quelconque illégitimité du militantisme et des prises de position face à la société plus ou moins radicale, mais sur son application dans le domaine de la recherche, qui, elle, cette application, demande de savoir prendre une distance vis-à-vis de son sujet, de l'interroger et de le penser pour construire des outils conceptuels qui permettent de mieux comprendre notre monde. Je la cite. Ils commettent ces académo-militants, en effet, ce que les sociologues nomment une confusion des arènes entre celle scientifique ou épistémique de la production et de la transmission du savoir et celle politique ou civique de la transformation du monde social. Un chercheur, pour pouvoir conduire sa recherche, doit respecter la neutralité axiologique qui exige de ne pas exprimer son opinion personnelle. Il ne lui est pas demandé d'être objectif, mais d'être neutre, car cette attitude est la seule qui lui permet de rester ouvert à son objet d'étude, de ne pas écarter les éléments inattendus, surprenants qui viendraient modifier l'état des connaissances et générer des débats avec ses pairs. Or, ces académo-militants entendent profiter de leur statut de chercheur sans faire de la recherche. L'auteur cite Xavier Laurent Salvador qui dit « Une fois abolie la neutralité axiologique et la quête de l'universel, toute littérature scientifique peut sereinement quitter le domaine de la controverse pour basculer dans la polémique, tout en se parant, comble de l'inversion, des outils du discours scientifique. L'abandon de cette neutralité conduit à placer la subjectivité comme critère de vérité, ce qui conduit à toutes les dérives. L'auteur écrit « Pire, l'expérience individuelle est érigée en garant de la justesse du discours, tenue sur le groupe auquel on appartient ou proclame d'appartenir. Il faut être lesbienne pour parler de l'homosexualité féminine, noire pour traduire une poétesse afro-américaine et arabe pour étudier le racisme. Dès lors, nous pouvons observer une tendance qu'amplifient les réseaux sociaux, la méfiance face aux scientifiques, le règne du ressenti, des expressions individuelles immédiates qui expliquent la radicalité des positions, le rejet de ce qui n'est pas de soi et le refuge dans une communauté de personnes qui pensent comme vous. Violence liée à la radicalité, exclusion de l'autre qui conduit à la dénonciation ou la délation. Dès lors, la parole savante n'est plus considérée, chacun se persuade d'avoir raison, sans s'interroger de savoir ce que pense l'autre, qu'il soit savant ou non. La place du débat se raréfie et ses fondements relèvent plus des croyances portées par des slogans, des lieux communs. Cette appartenance à une communauté, à ceux qui pensent comme vous, interdit à toute autre personne étrangère de pouvoir vous comprendre. Ainsi, l'absence de débat, de dialogue entre les personnes se construit sur l'absurdité. L'absurdité d'une conviction close sur elle-même, dès que l'on considère avoir raison sans ouvrir le débat, ce que l'on pense confirme ce que l'on pense, développant une forme tautologique de son savoir qui se vérifie par lui-même. L'absurdité de l'exclusion de toute personne qui ose penser différemment de vous, alors qu'elle n'appartient pas à la communauté, conduit au totalitarisme. Comment penser qu'il faut être noir pour pouvoir jouer un personnage noir au théâtre? Comment penser que seul un noir peut traduire un poème de noir? L'absurdité de nier les différences au sein même de la communauté, qui se déplace non sur le terrain du débat, puisque tout le monde a le même débat, mais sur celui des personnes. Petit arrangement entre amis qui met à mal l'expertise de ses pairs, mensonges, jalousie, dénonciation, scission, etc. Comme le confesse un chercheur canadien, Christopher Dumit, ayant avoué avoir truqué ses données, il nous dit « Tant que nous n'aurons pas d'études divergentes en matière de sexualité et de genre, tant que l'expertise par les pairs ne sera rien d'autre qu'une forme de repérage interne au groupe, l'on est en droit d'être très sceptique quant à ce qui est qualifié d'expertise sur la construction sociale du sexe et du genre. » Troisième absurdité, l'absurdité d'écarter le réel par un déni d'un réel qui n'est pas conforme à la pensée de la communauté, en rejetant tout rôle que pourraient jouer les contextes qui participent justement de la construction du réel. En citant une angliciste de l'université de Tours qui se définit comme une afro-féministe, qui déclarait le 28 juillet 2019, dans une éloge des réunions non mixtes, voilà ce qu'elle disait, « L'homme blanc ne peut pas être antiraciste et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une noire et un arabe. Il ne peut pas, c'est pas possible. Et ça, il va falloir qu'en France, qu'on s'en rende compte. » L'auteur commente cette position. « Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas bien. » Ainsi pourrait se résumer le déni politiquement correct du réel. Ainsi, comme l'écrit l'autrice, l'évitement du débat intellectuel par sa politisation ne suffit pas pour esquiver le débat. Une autre ressource de choix est la culpabilisation, avec sa face inversée qu'est la victimisation. Sachant qu'il est difficile de se dire raciste, antiféministe, pédophile aujourd'hui dans un débat, sans être sûr de voir tomber l'opprobre sur soi. Ceux qui a priori ne peuvent pas l'être ont beau jeu de culpabiliser les autres qui, parce qu'ils ne le sont pas, sont suspectés de l'être. C'est ce que fait ouvertement cette universitaire angliciste de Tours. L'homme blanc ne peut pas être un antiraciste car implicitement il l'est en perpétuant sa domination, quelle qu'il soit, quelle que soit sa position sociale. En rendant ainsi le débat impossible, ils espèrent imposer leur pouvoir. La violence génère la violence. En réponse, il y a deux positions. L'une qui consiste à prendre le contre-pied de cette vision en affirmant le contraire, l'Amérique au blanc, la France aux Français, de l'histoire ancienne à celle récente, les exemples ne manquent pas. L'autre qui consiste à dénoncer cet enfermement du débat et la revendication d'un pouvoir sur les débats en les interdisant, les sanctionnant, les dénonçant et à s'opposer à la dite « cancel culture ». L'autrice écrit « Plutôt que de discuter, d'argumenter, de raisonner, on préfère réclamer l'annulation d'une conférence, d'un colloque, d'une publication dont le thème ou l'auteur déplaît. Les tentations totalitaires ont toujours existé, à droite comme à gauche, mais aujourd'hui, c'est chez les académo-militants autoproclamés progressistes qu'elles fleurissent en majesté. Pire, ce sont ceux qui prônent et pratiquent cette « cancel culture » qui accusent leurs victimes de censure lorsqu'elles exigent d'être protégées contre ces pressions ou tout simplement de soumettre les travaux en question à des évaluations scientifiques dignes de ce nom. Si Nathalie Hennig dénonce les effets de cette cancel culture sur la recherche universitaire, nous ne pouvons que constater que ces effets aussi atteignent la culture. Car les œuvres des artistes sont des invitations à débattre, ce qu'elle refuse, puisqu'elle est plus prompte à juger ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. L'histoire d'Eric Kessel en est un exemple que j'ai déjà décrit. Mais récemment, une traduction du poème lu à la cérémonie d'investiture de Joe Biden par son autrice, Amanda Gorman, a donné lieu à une polémique. Une tribune de la journaliste néerlandaise Jendel a constaté le choix d'une traductrice blanche. Elle écrivait qu'il fallait mieux confier cette traduction à un artiste qui, tout comme Gorman, vienne du spoken word, poésie parlée, slam, soit jeune, femme et résolument noire, pour conserver toute la puissance du message véhiculé par Amanda Gorman. Marieke Luca Rinschfeld, c'est un choix incompréhensible à mon avis, et à celui de beaucoup d'autres qui ont exprimé leur douleur, leur frustration, leur colère, leur déception via les réseaux sociaux, forme bien entendu de victimisation. Nous ne pouvons que constater comment des personnes sont jetées en pâture à la vindicte publique, des réseaux, alors qu'ils n'ont rien fait, ni même qu'ils ont dit quoi que ce soit. C'est bien leur personne qui est visée, non pas en raison de leurs compétences et de la singularité de leur personnalité, mais de leur unique identification à être une femme blanche. Ce processus nie la personne, qui n'apparaît plus que comme par l'étiquette qui lui est appliquée. C'est le début de toutes les formes de totalitarisme, qui nie l'autre pour pouvoir à l'extrême le tuer, en le caractérisant de juif, de terroriste, de colonialiste, de raciste, de blanc, d'hétérosexuel dominant. L'histoire se répète sans que ses leçons soient retenues, les autodafés de livres, les arts qualifiés de dégénérés, etc., etc.
Le jour je fais des efforts, hélas quand la ville dehors, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour je bats les records, mais quand change le décor, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Le jour je suis matador, hélas la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'est indolore, hélas quand la nuit me mord. Cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Se jouer de moi. Se jouer de moi. Se jouer de moi.
Un peu de commande publique. Je vous propose de poursuivre la série de chroniques sur la commande publique qui avait été lancée lors de la construction de la ligne A du tramway d'Orléans. Ligne qui fut mise en service le 27 novembre 2000. Le programme artistique de cette commande publique a été conduite par Serge Lemoine et concerne 8 réalisations artistiques confiées aussi bien à des artistes français qu'étrangers. Ce programme consista à privilégier la réalisation d'architectures de petite taille dans l'esprit des folies qui ornaient les parcs du XVIIIe, le parc d'Ermenonville, le désert de Retz, Bagatelle et le parc de Versailles. Une mode qui est commune à toute l'Europe et au-delà. Vous connaissez peut-être la pagode de Chanteloup, que vous pouvez voir à la sortie sud d'Amboise. Cette mode de petites édicules continue d'inspirer des artistes plus récents, comme l'aménagement du parc de la Villette et de ses folies à Paris, réalisé en 1997 par Bernard Tsoumi. L'agglomération d'Orléans, comprenant une grande diversité de paysages et d'architecture, devint le lieu de ces ponctuations architecturales, qui sont plus présentes pour être vues du tramway que pour être visitées. D'ailleurs, elles sont souvent difficilement accessibles et certaines closes. La commande faite aux artistes est bien de construire une modeste architecture qui, en s'inscrivant dans l'environnement retenu, doit par sa présence visuelle le révéler. La création que réalise l'artiste est à la fois spécifique du lieu choisi, mais aussi de sa production artistique. Aujourd'hui, après avoir consacré lors de la précédente émission la commande confiée à Peart Kirkeby, je vais m'intéresser à celle conduite par Elisabeth Ballet. Elisabeth Ballet est une artiste française née en 1957 à Cherbourg. Elle est diplômée de l'École nationale des beaux-arts de Paris en 1981. De 1984 à 1985, elle est pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, puis elle déroule une importante carrière d'artiste, mais aussi d'enseignante, dans les écoles nationales supérieures d'art. Elle conduit 3 commandes publiques en lien avec les tramways français. En 2001, Cha-Cha-Cha au carrefour du Pot d'Étain à Pont-Audemer. En 2004, Travelling pour le tramway de Bordeaux. Et celle que nous allons commencer par décrire, Fabrique pour le tramway d'Orléans. Sa dernière grande exposition monographique, Tout en 1 plus 3, a eu lieu au Macval en 2018. Fabrique répond parfaitement au programme de la commande qui vise à ponctuer le parcours du tramway par des édicules qui interviennent pour révéler le paysage et engager le voyageur à s'étonner de ces édicules vus au travers de la vitre du tramway. Fabrique est une tour coiffée d'une couronne, comme celle des reines des livres d'enfants ou des reines des échecs. Mais détaillons-la, car sa réalisation est d'une grande précision. Le socle est composé d'une dalle orthogonale et d'une plaque orthogonale de béton sur le sol. La dalle qui vient s'y poser, mais est décalée de 45 degrés afin que son angle se trouve au milieu du segment de l'octogone de la plaque du sol. Vous pouvez voir une photographie de ce détail dans l'actualité de l'émission. Ainsi, il apparaît clairement que la tour est posée sur cette plaque de béton au sol, comme un objet posé sur un socle indépendant de toute fondation. Ainsi, la tour est-elle plus une sculpture qu'une architecture? Sur ce point, écoutons l'artiste. J'ai quelque chose de très fort avec la sculpture, le fait qu'il y ait un objet qui prenne l'espace et au travers duquel on ne peut pas passer. J'ai toujours considéré la sculpture comme un obstacle, comme quelque chose que nous ne pouvons ni approcher ni traverser. Je n'ai pas envie de faire un objet qui soit facile d'accès. Le corps de la tour est constitué de 32 piliers pleins et autant d'espaces vides intercalés. L'octogone se compose de 8 blocs de 4 piliers. Il supporte la couronne circulaire. L'espace des piliers se réduit en profondeur afin de réaliser un espace intérieur rond. Le passage de l'octogone au cercle n'est pas sans évoquer le passage du carré de Peart Kirkeby qui vient phagocyter le cercle. Or, le cercle est une figure parfaite, idéale. Elisabeth Ballet l'utilise pour construire l'espace intérieur de la tour afin d'en accentuer l'idéalité. La disparition du cercle dans le carré chez Peart Kirkeby marque plutôt un retour au réel. Poursuivons la description. Les piliers sont fins, la régularité pilier vide toujours similaire et ne permettent pas d'entrer à l'intérieur de la tour et demandent par conséquent pour le voir de s'en rapprocher. De nuit, l'esplotte placée à l'intérieur en éclaire l'espace interne, mais fait rayonner la lumière au travers des piliers. Sur l'une des faces se situe une porte longue et étroite, dont la partie supérieure est en plein cintre. Elle donne à l'extérieur sur un escalier raide de 7 marches, peu praticable, et à l'intérieur un escalier de 5 marches, identique à celle de l'entrée. La porte est fermée, les escaliers se justifient plus par rapport au dessin global de la tour que pour leur fonctionnalité d'escalier. Ils sont raides et étroits et ne sont pas faits pour être empruntés. La porte se trouve largement au-dessus du sol, accentuant la distinction nette entre l'espace extérieur et l'espace intérieur, comme si ces marches amplifiaient l'importance de cette tour, de ce qui pouvait s'y passer, comme les marches du palais du Festival de Cannes portent l'image symbolique du festival plus que ne le font l'architecture banale du palais ou même de la ville. L'escalier avec ses hautes marches peu praticables et la porte placée en hauteur nous signalent qu'il ne s'agit pas d'un espace ouvert au commun des mortels, mais d'un espace réservé, particulier, peu ordinaire, que l'on pénètre que par l'esprit. Thierry Dufresne, dans le texte « La tour couronnée », qu'il consacre à Elisabeth Ballet dans le livre « L'art dans le paysage du tramway d'Orléans », interprète ce passage entre l'extérieur et l'intérieur de la tour en écrivant. Je le cite. « Ainsi est figuré le passage entre le monde séculier à l'espace du sanctuaire. » La description précise de l'œuvre est le préalable indispensable à toute analyse d'œuvre d'art, quelle qu'en soit l'époque et la contrée. Plus une œuvre est pertinente et juste, plus la précision de la construction de l'œuvre est grande. Dans des œuvres importantes, rien n'est gratuit dans l'intention et la pratique de l'artiste, alors que dans des œuvres plus modestes, l'intention de l'artiste ne se revendique que par sa propre imagination, expression ou goût. C'est pour cette raison que plus une œuvre est contrainte par sa précision, plus elle est ouverte à l'interprétation. Pour vous en convaincre, lisez les premières pages du livre de Michel de Foucault, « Les mots et les choses », sur l'interprétation qu'il fait du tableau « Léménine » de Velázquez, peintre dont nous avons parlé lors de la dernière émission, ou les livres fantastiques de Daniel Arras, ou de tant d'autres historiens d'art. L'œuvre d'Elisabeth Ballet, comme l'était celle de Pierre Kirkeby, est juste et pertinente en regard de la commande, mais aussi de ses préoccupations artistiques qui animent sa vie d'artiste. Pour mieux vous permettre d'approcher cette œuvre fabrique d'Elisabeth Ballet, nous allons naviguer dans son œuvre en retenant quelques-uns de ses traits saillants. Ses œuvres se construisent toujours autour d'un vide qui révèle l'espace ou les espaces auxquels il est associé. L'œuvre « Trait pour trait » de 1993, qui fut commandée pour le parc du domaine de Kerguéhennec, est une grille circulaire fermée de 11,50 m de diamètre posée dans une clairière. Seule une porte peu visible permet d'y entrer. Le vide interne de la grille modifie la vue et la perception corporelle de l'espace de la clairière en l'occupant, en l'obstruant, et nous empêche d'en mesurer l'étendue tant l'œil vient se cogner contre la grille. À l'intérieur du vide de la grille, notre regard s'ouvre à une autre vision de la nature, des arbres qui l'entourent, et nous offre une vue de la clairière que nous n'aurions pas eue sans elle. Elle nous révèle donc l'espace que constitue cette clairière que nous aurions pu traverser sans y prêter attention. La commande Cha-Cha-Cha de 2001, réalisée à Pont-Omer, est constituée d'un pavage au sol qui représente une dentelle, mais dont le dessin n'est pas visible quand nous marchons dessus. Il n'est observable que de haut. Il y a donc bien un vide entre le sol et le point haut de vision en hauteur, où il est possible de saisir le dessin. Il y a deux espaces de perception, celui duquel se déploie le dessin et celui que nous foulons au sol. Entre les deux, le vide porte la cohérence de l'œuvre, exactement comme le vide de la grille circulaire, trait pour trait le fait. Dans les deux cas, il n'est pas physiquement perceptible puisque seul l'air l'occupe. Il suppose donc une construction mentale, exactement comme une portée de musique permet aux musiciens d'entendre la musique, ou comme les plans en coupe et d'élévation permettent de projeter un volume. Dans la fabrique, il y a bien une distinction entre l'espace octogonal de l'extérieur et l'espace circulaire de l'intérieur, qui ce dernier, à la différence de l'œuvre trait pour trait, n'est pas accessible. Thierry Dufresne parle ainsi de ce vide, celui de l'intérieur de la tour, donc je le cite, « C'est une réserve qui fait de la structure un lieu du secret, un quasi-sanctuaire, un templum. » Et il justifie que ce lieu doit rester clos et fermé en disant, et là je le cite à nouveau, « L'accès doit rester spirituel si l'on veut accéder à la compréhension de la sculpture. » Dans plusieurs autres œuvres, Elisabeth Ballet va proposer des espaces réservés, comme par exemple dans l'œuvre « Contrôle 3 » de 1996-2000, composée d'un bloc de 5 parois de plexiglas colorées adjointes et posées sur un sol recouvert de sable. L'espace intérieur, clos, inviolé, se différencie de l'espace extérieur où les pas des spectateurs ont dispersé le sable. Un espace activé par ceux qui passent, se regardent sur la surface et observent l'espace environnement qui s'y reflète, se distingue d'un espace immobile, intemporel, comme suspendu, situé dans le vide du volume. Domaine dans l'œuvre, bande à part, de 2000-2002, qui se compose d'une barrière faite de gros tubes d'aluminium qui se fichent dans un muret de parpaings clairs, formant un espace clos, mais comme toujours poreux, à la possibilité de percevoir pleinement les différents espaces. La barrière avait donné lieu à une première présentation dans une galerie new-yorkaise qui s'intitulait Mouth. Elizabeth Vallée nous dit, je cite, « Je l'ai plus tard augmenté d'une construction en parpaings gris de faible hauteur, qui l'a désolarisée de l'architecture, elle a changé de nom. Je ne voulais plus l'assujettir à la simèse de soutien. Il fallait que l'on constate ce qu'est un mur, ce qu'il cache, dévide d'autres murs. » Michel Gauthier commente cette œuvre dans le texte de la relativité des places, la leçon d'Emmanuel. Je le cite. « La barrière et les murets ne protègent rien d'autre que la vacance de leur intérieur. Ainsi, l'artiste, Elizabeth Vallée, veille à ce que tous les différents espaces qu'elle crée soient lisibles, en totalité perceptibles, car le vide qui les lie ne peut l'être lui aussi que si les espaces le sont. » Dans ce sens, la volonté de l'artiste est plus d'ordre sculptural qu'architectural, car elle contrôle le développement autonome de sa sculpture dans l'espace. Elle veut éviter, en appuyant la barrière au mur, que l'espace qu'elle circonscrit puisse permettre d'imaginer qu'il puisse se poursuivre au-delà du mur, fuir au-delà du mur. De même, la dalle de la tour est posée sur une plaque de béton comme une pièce d'échec sur un échiquier. Et l'escalier semble plus solidaire de la tour que fixé au sol, car la contre-marche arrête l'escalier juste au niveau du sol. De plus, il ne me semble pas que le sens qu'elle attribue à ses œuvres ne dépasse celui des processus qu'elle met en œuvre pour les réaliser, non pas pour les restreindre, bien au contraire, pour les ouvrir, pour les donner et les soumettre à l'expérimentation du visiteur. Les titres soulignent à mon sens ce choix, soit parce qu'ils sont totalement littéraux, comme BCHN de 1997, qui reprend les lettres BCHN des quatre galeries dont elle dispose pour développer sa pièce, soit parce qu'ils sont aux antipodes de cette littéralité et qu'ils ouvrent sur ses vécus, comme Tristesse des clous, 2002, soit qu'ils jouent sur des impressions, des visions, des ressentis, des images, comme la trace des feux des voitures dans la nuit pour évoquer l'image d'un déplacement de Flying Color, 2010, ou les fils coupés qu'une couturière aurait laissé éparpiller sur une table après un démontage, nous dit-elle, pour l'œuvre Smoking et Brillantine de 2011. Dire que le sens de ses œuvres ne semble pas dépasser celui des processus qu'elle met en œuvre pointe l'importance des processus qu'elle emploie, dont les maquettes sont le témoin, pour prouver les arrangements justes des espaces entre eux au milieu d'un vide. Dans la page d'accueil de sa page internet, nous pouvons lire « J'engage mon travail sur les questions du déplacement dans l'espace, sur l'articulation du dehors et du dedans, des mots aux choses, du dessin vers la sculpture, du mur vers le centre, du plan vers le volume et plus généralement d'une œuvre vers l'autre. Les sculptures sont de la pensée en acte, elles sont totalement lisibles, surface transparente, enregistrement de leur environnement et tiennent le spectateur à distance, c'est-à-dire qu'elles l'obligent à une déambulation mentale. Les processus sont diversifiés, mais répondent à ce programme qui consiste de passer d'un espace à l'autre sans qu'ils puissent être partiels ou se dissoudre entre eux. Ils sont poreux, mais toujours distincts entre eux. Le spectateur peut permuter d'une place à l'autre, car il s'agit de ressentir le passage franc de l'un à l'autre, comme l'on retourne une crêpe où seule une face est visible à la fois. Puis, grâce au vide, nous pourrons les agencer afin de lire l'image mentale qu'Elizabeth Vallée nous invite à partager. Ainsi, les processus sont les moyens d'action de la pensée en acte et conduisent à l'œuvre qui la représente. Pour y parvenir, le processus doit être rigoureux et lisible pour que chacun puisse être appréhendé physiquement et mentalement distinctement et rendre possible, en passant de l'un à l'autre, la constitution de l'image mentale que l'artiste souhaite éveiller. Les processus me semblent relever de plusieurs orientations, ceux dont le passage d'une forme à l'autre dans un espace découle d'un calcul, d'un report, et ceux dont le passage d'un objet à l'autre découle d'un déplacement, d'une translation, d'une traduction, d'une symbolisation. Chacun des deux, s'il s'avère précis, les notices en témoignent, semble toujours aboutir à une forme objet indéterminée mais troublante et à un objet catalyseur d'image mentale potentielle. Prenons plusieurs exemples relevant de cette première orientation comme point de vue et perspective. Série Face à main de 1989. Cette œuvre présente un dessin en plan, mis en élévation et en perspective, comme le dessin, le modelage, la matière ou la couleur, la perspective fait partie de la représentation, nous dit l'artiste dans la notice. Pour l'œuvre Emmanuel, elle décrit, je cite, « J'ai conçu le destin d'Emmanuel à partir du report de la découpe d'un petit morceau du rivage de la côte aux environs de Naples. » Écoutons maintenant ce que nous en dit Michel Gauthier. « Il n'y a rien qui distingue la partie de l'espace enceinte par une barrière de celle qui se trouve autour, mais le spectateur peut se placer d'un côté ou de l'autre de cette barrière. Il y a une pièce qui incarne magnifiquement cette permutabilité des places, c'est Emmanuel, 1998. » Une frêle barrière en bois au tracé sinueux qui, s'il délimite un intérieur et un extérieur, ne se renferme néanmoins pas sur lui-même. Ainsi m'est-il permis d'aller aisément d'un côté ou de l'autre de cette gracile balustrade. Ainsi m'est-il permis de choisir ce dont je vais me séparer et ce à quoi, pour quelques instants au moins, je vais accorder une vie privée. Pour l'œuvre « Sept variétés de sites », Elisabeth Ballet écrit, je la cite, pour l'exposition « 7 variétés de sites », j'ai tracé au marqueur une série de lignes horizontales espacées de 20 cm, du bas en haut, des trois murs de la galerie. Les sculptures en bois changent donc de plan tous les 20 cm. Le dessin au mur renvoie au pliage et à la géométrie, les titres au monde réel. Une planche très épaisse se déplie du haut en bas et remonte sur elle-même en changeant de plan 15 fois tous les 20 cm. La sculpture perce le site. Chaque sculpture en bois est étonnante et résulte du processus qu'elle a défini. Prenons quelques exemples pour expliciter la seconde orientation. Eyeliner de 2007 est constitué d'un ruban de caoutchouc de 50 mètres qui porte des bandes intermittentes et flèches peintes en blanc comme celles présentes sur les routes. Elle est posée au sol en faisant des plis. Le fait que ce ruban ait un début et une fin traduit parfaitement notre rapport à la route que l'on prend et que l'on quitte à un moment. Le pli du ruban marque autant la face de la route que l'arrière, c'est-à-dire la route que l'on ne voit pas. Cette portion de route présente autant d'événements pour ceux qui l'éprouvent visuellement, physiquement et mentalement, mais jamais l'artiste ne souhaite aller au-delà du simple constat de ce qui est là, de la matérialité de la pièce qu'elle nous présente. Écoutons-la, écoutons Elisabeth Ballet, je la cite. Comment réduire une route à quelques mètres comprimés et isolés sur le sol d'une salle dont les limites sont partout repérables? Si la littérature, le cinéma et la photo l'ont si souvent évoqué, c'est pour moi presque un objet comme un autre. La route peut s'arrêter au milieu de nulle part, car elle n'a jamais de départ ni d'arrivée définie. On la prend quelque part, on la quitte ailleurs. Étroites bandes repliées sur elles-mêmes, à l'endroit puis à l'envers, son revers a autant d'importance, il symbolise la continuité et l'ailleurs de ce que l'on ne voit pas. La route a un code, une signalétique, un tracé, une perspective. Pour l'installation de la sculpture Eyeliner, l'effort ne sert à rien. Il faut être simple et se laisser entraîner par les qualités matérielles du caoutchouc. Elle s'enroule et se plisse jusqu'à un certain point. Elle est difficilement contrôlable sur la longueur en raison du poids. Je voulais faire ressentir la continuité de la route dans le temps et l'espace, mais également dans sa matérialité. La pièce « Les idées » est juste une écriture de deux mots « les i paresseux » et « des jours » qui ne se lit que grâce aux ombres des lettres en blanc sur le mur blanc. À vous de passer d'un mot qui n'existe que par son ombre à sa signification. Voilà comment l'artiste nous en parle. Je la cite, « C'est dans la détente des jours immobiles que les idées surgissent. Une échelle de bois dont j'avais lu le modèle dans un magasin de fourniture industrielle est adossée contre les mots « les idées » peint au pochoir en ombre portée à l'aérographe. Les caractères majuscules en retrait dont les contours dessinent les bords nets apparaissent immaculés, comme si la lumière du soleil les avait consumés, ne laissant que leur ombre floue, décalée, noircie. La silhouette hyper réelle des mots semble saillir de la surface blanche du mur, l'échelle flotte, éparée, déplacée. Pour finir, nous conclurons sur Fabrique, qui est l'objet de cette chronique, en résumant les points qui peuvent aider à sa compréhension. La tour est plus un objet sculpture qu'une architecture, car elle est clairement détachée du sol. Elle définit un espace octogonal extérieur ouvert à tous et un espace circulaire intérieur fermé. Elle est éclairée de l'intérieur la nuit. L'escalier, la porte et la couronne sont plus des objets qui font appel à des images que des éléments d'architecture. La couronne fait de la tour aussi bien une tête couronnée qu'une reine d'échecs. La porte et l'escalier évoquent ceux des châteaux de Walt Disney, des livres d'illustrations d'enfants, de contes ou comme une porte de cage. Nous pouvons en conclure que la tour couronnée crée une image mentale, certes indéterminée, qui est laissée à vos propres projections, mais qui doit respecter la distinction entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Ce dernier est inaccessible comme un espace sacré, idéal ou simplement différent de notre espace quotidien. Cage d'amour, petit temple céleste, tour de la princesse, sanctuaire, cénotaphe comme celui de Louis-Étienne Boulay, consacré à Newton de 1784, et tant d'autres choses qu'il vous reste à imaginer. J'espère que si vous passez par le tramway à l'endroit de son emplacement, vous verrez cette tour différemment. Military march, pin it on my head. Everything I did, everything I say, yeah. Take it to the arch for your happiness. Or spend it like a lock, sing it for nothing. I get no joy. I get no joy. All the ones I'm on the second scene, I get them on my head. Everything becomes everything. You live, you learn, you love, you're dead. Straight up to the A, yeah, I'm such a fool. Got everything in you, yeah, my heart is so blue. I'm singing for nothing. I get no joy. I get no joy. All the words I'm over sick and seen, I get them on my head. Everything becomes everything. You live, you learn, you love, you're dead. I get no joy. I swear that I don't pay attention. If I did, would intervention come to me in a dream? Or is that just what the directors and the pills and the deflectors would have you believe? Psychotic, hypnotic, erotic, which parts is your thing? But how many days a week do you feel? Electric, connected, unexpectedly affected. What do you need? What do you need? I can see the ghetto on my head. Everything becomes everything. You live, you learn, you love, you're dead. Un peu de commentaires de livres. Restez au milieu de ma bibliothèque en attendant que la Covid se décide à quitter notre air pour nous laisser respirer en toute tranquillité. Je suis tombé sur un petit livre que je n'avais pas encore lu. Il s'agit d'un ouvrage regroupant les textes d'Éric Michaud, soit liés à des conférences ou des expositions, sous le titre « Fabrique » au pluriel « De l'homme nouveau, de Léger à Modrian » aux éditions Carré, collection Art esthétique, Paris 1997. Plus que d'en faire une note de lecture, je vais simplement commenter un point soulevé par l'auteur. L'inhumanité de l'homme moderne et la nécessité de mettre fin à l'art bourgeois. Cette évolution que la Grande Guerre favorise met en avant les technologies et la massification des moyens techniques comme l'artillerie et la masse des humains. Il en découle un étrange voisinage entre le dégoût de cette guerre et l'intérêt qu'elle suscite. Je porterai une attention plus particulière à l'œuvre de Fernand Léger, 1881-1951, qui en appelle à l'homme nouveau, comme les autres peintres cités, les futuristes, le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius, Oskar Schmeler, Mondrian, les réalistes, mais qui ne se revendiquent pas exactement du même homme nouveau, bien entendu. Leur questionnement est prémonitoire des conséquences de la Première Guerre mondiale, des horreurs d'une guerre dans la boue et le sang, une guerre enterrée dans les tranchées, soumise à des feux soutenus des artilleries de part et d'autre. Je m'appuierai aussi sur le numéro hors série Fernand Léger, une correspondance de guerre de 1990 des cahiers du Musée national d'art moderne, centre Georges Pompidou. Une guerre de masse et avide de machines, la machine devient l'horizon de l'homme nouveau qui revendique son inhumanité. Apollinaire écrivait en 1908 « Avant tout, les artistes sont des hommes qui veulent devenir inhumains. Ils cherchent péniblement les traces de l'inhumanité, traces que l'on ne trouve nulle part dans la nature. » Fernand Léger lui apparaît comme le peintre qui avait encore l'accent le moins humain. En 1913, Apollinaire commente le tableau « Nu dans la forêt » de Fernand Léger, dont il nous dit « Les bûcherons portaient sur eux les traces des coups de leurs cogniers laissés aux arbres. » Éric Michaud, l'auteur de ce petit livre, poursuit. « C'était donc là, sur ces stigmates communs aux arbres et à leurs torsionnaires, qu'il pouvait lire une inhumanité non pas naturelle, mais ajoutée, secrétée par l'artiste, comme ce vers quoi il tend. » Léger, en parlant de ce tableau, dit « J'avais une obsession, je voulais déboîter les corps. » Éric Michaud poursuit. De même qu'il identifiait le travail de ces hommes contre la nature à une héroïque bataille de volume, de même, il concevait son propre travail de peintre comme un long et difficile combat de la tradition. « J'ai mis 2 ans à me battre contre les volumes des nus dans la forêt que j'ai achevée en 1910. « C'est debout, écrivait-il plus tard, en état de guerre contre la société, que ces œuvres vivantes ont été conçues et forgées. » Léger, comme tant d'autres, les dadaïsmes, Malevitch, les futuristes, le cubisme, prônent la fin d'une société bourgeoise assise sur la tradition, dont la grande guerre accélère la fin. Dans sa correspondance de guerre avec son ami d'enfance, Louis Pougnon, 1914-1918, Fernand Léger oscille entre l'horreur de la guerre et sa fascination pour les machines et les intelligences que la guerre met en œuvre. Il est simple soldat, brancardier, et décrit ce que peut être la vie dans une tranchée, en même temps qu'il poursuit sa réflexion artistique. Le plus dur, comme il le dit, c'est le décalage entre cette guerre technique massive et dispendieuse et l'incroyable brutalité des conditions de la vie du soldat dans les tranchées. Justement, il critique les périodes de repos à l'arrière qui entretient la peur d'y retourner. « Le cafard te fige », dit-il. Il semble reconnaître à la vie, au plus près du combat, une certaine exaltation pour sa modernité. Il écrit « Je n'ai jamais eu le cafard ni le regret des choses abandonnées lorsque j'étais en pleine action. Tout est tellement rapide, imprévu, que tu n'as pas le temps de penser au reste. Ta vie se multiplie au maximum et on se fait extrêmement rapidement aux situations les plus dures. Il faudrait que toujours la machine soit sous pression. On arrive à une soûlerie inconsciente qui, lorsqu'elle se dissipe, te laisse avec toute ta réflexion et ton sang-froid. En somme, on arrive à ceci, des êtres humains agissant dans l'inconscient et faisant agir des machines. On est tout près de l'abstraction. J'espère que la prochaine guerre trouvera le moyen d'éviter le peu d'action individuelle qui reste. La conclusion est que la discipline est une des choses les plus admirables qui soit, surtout pour des masses d'hommes modernes qui veulent savoir et qui tout de même agissent abstraitement, sans pouvoir juger les moyens et les actes tactiques ou stratégiques qui nous meuvent. Je suis sûr qu'ils ressortent d'une très haute intellectualité. Les gens qui nous commandent sont énormément plus intelligents que, par exemple, les hommes du Premier Empire. Ça, c'est très moderne. Ce sont d'ailleurs les moyens nouveaux qu'ils ont à leur disposition qui leur permettent ces combinaisons complexes et rapides. Tout ce qui se fait aujourd'hui est plus complexe, malgré tout plus rapide. C'est partout et c'est ainsi à la guerre. La vie va sans doute du simple au complexe, mais malgré tout elle gagne en rapidité. Le but de la vie a l'air d'être de multiplier les sensations. Le plus heureux, c'est celui qui enregistre le plus dans le minimum de temps, c'est le jouisseur moderne. Toutes les inventions modernes viennent seulement à lui pour lui permettre de satisfaire son besoin de vitesse. Ce texte touche du doigt l'optimisme de pouvoir avoir tant de moyens pour décupler nos capacités, ce qui porte cette fascination pour les technologies encore présentes dans notre société, qui s'appuie sur l'accélération du présent, qui, en nous contraignant à vivre qu'au présent, détruit notre capacité à se penser. Le présent devient le temps de la vitesse, qui, pour ces modernes, multiplie les sensations et les possibilités du jouir, mais il devient un temps découplé du passé et du futur, un temps qui se résume à vivre pleinement l'instant, sans égard à ce qui le produit et qui conduit à agir abstraitement, c'est-à-dire avec discipline, obéissance et inconsciemment. Agir abstraitement conduit à l'émancipation des tabous, des freins, des transgressions. Éric Michaud écrit « Dès 1917, les œuvres de Léger sécrétaient quelque chose de victorieux, de sûr de soi, rappelant cette inhumanité vers laquelle Apollinaire le voyait tendre avant la guerre. Mais l'inhumain qui l'habitait maintenant se confondait entièrement avec celui d'une époque, humaniste, la sienne, réalisant sa propre négativité. Convaincu que la beauté moderne se confond presque toujours avec la nécessité pratique, il rejoignait le principe de l'utilité de son ami Sandrard, pour qui l'art s'identifiait au travail anonyme de la nouvelle production industrielle, force formidable qui aujourd'hui étreint le monde entier et le façonne et le pétrit. Une telle idée n'était évidemment pas neuve, pas même pour Léger, qui se souvenait en 1913, déjà visitant le salon de l'aviation avec Brancusi et Marcel Duchamp. Ce dernier s'était exclamé au milieu des moteurs et des hélices « C'est fini la peinture, qui peut faire mieux que cette hélice ?» Dis, tu peux faire ça ? 10 ans plus tard, Léger répondait, il faut faire aussi bien ou mieux. Éric Michaud poursuit. Son anti-humanisme apparaissait maintenant comme la contrepartie de son aspiration humaniste à une société sans frénésie, calme, ordonnée, sachant vivre naturellement dans le beau, sans exclamation ni romantisme, une religion qu'il croyait utile et belle. Ainsi, n'est-il pas surprenant que Léger se soit souvent rencontré avec un socialisme à la dérive, celui du fascisme français, ni de droite ni de gauche, qui marquait par exemple la revue Plan à laquelle il devait collaborer en 1931-1932. Ce n'est pas la première fois que nous constatons à cette époque la distance ténue entre ce concept de modernité et les formes de fascisme et de nazisme. En fait, chacun, après le choc de la Grande Guerre, se veulent porteurs d'un mouvement révolutionnaire qui rejette les formes du passé au profit du présent, poussé par la puissance des technologies contribuant à la définition d'un nouvel vivre ensemble. Pour les uns, c'est la communauté de la race, pour les autres, c'est l'être ensemble au sein de la société. Ces choix supposent la mise en place d'une organisation, d'un système qui concourt à ce but. À l'opposé, le mouvement Dada rejettera tout système, car le fait même d'en inventer un suppose un quelconque objectif porteur d'une construction sociale en régimentant les hommes. Mais son rejet est sa limite. Éric Michaud cite Richard Huelsenbeck, 1892-1974, « Dada ne saurait être justifié par un système qui s'adresserait aux gens avec un « tu dois ». Dada repose en lui-même et agit à partir de lui-même, comme le soleil quand il se lève dans le ciel ou comme un arbre qui pousse. L'arbre grandit sans vouloir grandir. Dada ne fonde pas sur ses actions sur des motifs qui recherchent un but. Dada n'engendre pas à partir de lui-même des abstractions verbales, des formules et des systèmes qu'il aimerait voir appliqués à la société humaine. Il n'a pas besoin de preuves et de justifications, ni par des formules, ni par des systèmes. Dada est l'action créatrice elle-même. A l'inverse, Walter Gropius, 1883-1969, fondateur du Bauhaus, pense qu'il est possible de construire cet être ensemble à la condition que la forme et le sens adviennent ensemble du présent. Éric Michaud écrit « C'est pourquoi il exigeait que la mise en forme organique d'un objet conformément à sa loi propre en tant qu'elle est liée au présent, sans fioritures et sans gaspillage romantique. Car il faut pour lui que la forme garde sa pureté, c'est-à-dire qu'elle ne s'écarte pas de ce qui la fonde, c'est-à-dire son lien au présent de la société. » L'auteur poursuit. La création de formes types pour les objets d'usage quotidien est une nécessité sociale. Par là même, non seulement il désignait le lien social comme fondement nécessaire d'un rapport nouveau de la forme et du sens, mais il affirmait aussi que le sens et la forme devaient advenir du présent. La bonne forme, la forme morale, écrit Éric Michaud, c'est le type ou mieux le standard, défini comme l'exemplaire pratique simplifié de tout objet d'emploi général qui incorpore ce qu'il y a de mieux dans ses formes antérieures. Une fusion précédée par l'élimination du contenu personnel de ses designers et des éléments par ailleurs non essentiels et stériles. Un tel standard était appelé norme, mot dérivé de l'équerre du charpentier. La rationalisation qu'exigeait le pacte conclu avec la machine n'était donc pas pour Repus le principe essentiel du design, mais son agent purificateur. La forme devenait morale lorsqu'était mise à nu la fonction, enfin débarrassée de tous les mensonges de l'histoire, c'est-à-dire des styles et des modes, ainsi que des mensonges issus de toute volonté d'affirmation d'une